Je voudrais lire un premier verset avec vous dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5 et nous lirons le verset 4. Pour ceux qui étaient là dimanche matin, notre frère Jérémie nous a dit combien au travers du sermon sur la montagne, le Seigneur Jésus nous avait laissé tout ce dont nous avions besoin pour vivre une vie épanouie ici-bas sur la terre en lui et qu'il faudrait certainement toute une vie pour arriver à vivre chacun des conseils que le Seigneur nous a laissés au travers de ce sermon sur la montagne. Il y a plusieurs béatitudes et je voudrais partager déjà cette deuxième avec vous, donc dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5 et au verset 4. « Heureux les affligés, car ils seront consolés. » On le relit « Heureux les affligés, car ils seront consolés. » Alors actuellement, c'est vrai que nous sommes beaucoup dans une période de deuil, plusieurs circonstances que Dieu permet, puisqu'il reste le souverain. La consolation dont on va parler ce soir n'est pas exactement dans ce cadre particulier du deuil, quoique Dieu peut aussi se servir de périodes de deuil, de séparation, pour travailler nos cœurs et travailler surtout dans ce sens particulier que nous allons partager ce soir. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Quand on lit ce verset, quand on entend ce conseil comme ça, peut-être pour la première fois, ça peut être difficile à comprendre. Mais la parole de Dieu, quand on la croise avec d'autres versets, nous révèle ceci, c'est que Dieu, le Père de toute consolation, réconforte ceux qui se lamentent sur leur condition spirituelle, ceux qui sont consternés par leurs fautes, par leur égarement, par leur manquement, par leur péché. Dieu, le Père de toute consolation, tel que l'apôtre Paul nous le décrit plus tard, Dieu, il réconforte celles et ceux qui sont véritablement contrits, affligés dans leur cœur à cause de leurs fautes et de leurs manquements. Le bonheur, dit le Seigneur Jésus, le bonheur est dans les larmes. Quelque chose de particulier à premier abord, quoique les uns et les autres, nous avons pu certainement expérimenter aussi que verser quelques larmes avait une action particulière dans nos vies et bénéfique, même et en particulier dans le deuil. Nous savons tous le bénéfice des larmes dans ces moments particuliers ou de grandes souffrances. Et c'est vrai que les larmes, les pleurs, même si cela ne change pas les situations et les circonstances de notre vie, elle nettoie les plaies de notre cœur et elle favorise grandement la guérison. Lorsque nous reconnaissons nos fautes, nos péchés, avec honnêteté devant le Seigneur, lorsque dans notre cœur, au lieu de peut-être se fermer, se bloquer, lorsque notre cœur s'ouvre à la grâce de Dieu, rien ne guérit autant que cette consolation d'un père ou d'une mère, par exemple, pour un enfant. Rien ne peut guérir autant lorsque nous ouvrons notre cœur, et particulièrement à la grâce de Dieu. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Il y a un homme dans la parole de Dieu qui a été consolé puissamment par Dieu après avoir été profondément affligé. C'est un petit peu la pratique de ce verset que nous partageons ce soir. D'ailleurs, son nom signifie « l'Éternel a consolé ». Il s'agit de Néhémie. Vous savez que les noms dans la parole de Dieu ont une certaine signification. Et Néhémie, son nom signifie « l'Éternel a consolé ». Et à un moment particulier de sa vie, Néhémie a été profondément affligé. Selon la pensée de ce verset, il a été heureux dans le sens où il a été plus tard consolé. Alors je voudrais juste lire avec vous la prière de Néhémie, cette prière que nous trouvons, on peut le chercher ensemble, dans Néhémie au chapitre 1er, dans ce livre de Néhémie, fait partie de ces livres historiques, qui suit directement le livre d'Esdras, puisqu'il est dans la continuité après tout ce que le peuple d'Israël a pu vivre au niveau de la déportation. Il y a dans le cœur de plusieurs, ce désir de rebâtir, de reconstruire les murailles de Jérusalem et, Et c'est dans cet esprit-là que cette prière va se placer et elle va nous servir ce soir. Je voudrais me servir de cette prière pour retirer quelques points forts qui, je pense, peuvent être utiles pour nous dans notre vie, d'une manière pratique. Néhémie, chapitre 1er, nous allons lire déjà dans un premier temps les quatre premiers versets. Est-ce que tout le monde a trouvé Néhémie ? Ça va ? Néhémie, chapitre 1er, verset 1er, parole de Néhémie, fils de Hakalia. Au mois de Kisleu, la 20e année, comme j'étais à Suse dans la capitale, Hanani, l'un de mes frères et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, « Ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la province au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. » Verset 4. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai, et je fus plusieurs jours dans la désolation, je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Amen. On va lire tout à l'heure la suite. Je voudrais juste m'arrêter sur ce début de chapitre, sur ces quelques premiers versets. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai et je fus plusieurs jours dans la désolation. Néhémie a connu une période de sa vie où il a été profondément affligé. Tout ce que nous allons lire dans le livre de Néhémie, nous ne le ferons pas ce soir, il y aurait tellement de choses à découvrir dans le livre de Néhémie, mais tout ce que vous pourrez découvrir, toutes les études que vous pourrez faire, tout ce que vous verrez, notamment comment d'une manière prodigieuse et puissante, Dieu va permettre la reconstruction non seulement des murailles de Jérusalem, mais surtout cet esprit du peuple d'Israël devant le Seigneur et le désir du peuple d'Israël de retourner au commandement de l'Éternel. Lorsque on voit comment d'une même puissante Dieu œuvre et fait véritablement une œuvre de restauration au milieu du peuple d'Israël, tout cela, tout ce que vous lirez dans Néhémie, commence dans ce verset 4 du chapitre 1er. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis et je pleurais. On va lire, ça serait bien que vous puissiez garder un doigt sur ces versets puisque nous allons y revenir. Mais je voudrais lire avec vous dans le livre des psaumes, le psaume 34 au verset 19. Ce que nous voyons dans la vie de Néhémie, dans cet instant particulier de sa vie, c'est que Néhémie, c'est un homme qui va avoir un cœur brisé. Et lorsque nous disons ce thème que « heureux les affligés car ils seront consolés », eh bien nous parle dans un premier temps d'avoir un cœur brisé. Parce que le psalmiste est formel dans le psaume 34 et au verset 19, il est écrit ceci, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Il est près, il est proche, proximité de ceux qui ont le cœur brisé. Regardez un petit peu plus loin, au psaume 51, ce psaume de repentance de David que nous citons bien souvent. David aussi exprime cette même pensée au verset 18, psaume 51, verset 18. « Si tu avais voulu, psaume 51, verset 18, « si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. » Verset 19, « Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion, bâtis les murs de Jérusalem. » Lorsque un cœur est réellement brisé, Dieu le voit et Dieu manifeste sa puissance. Il est près de ceux qui ont le cœur brisé. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit qui est brisé. Je voudrais lire aussi un autre texte avec vous un peu plus loin, dans l'évangile de Luc, au chapitre 18. Je pourrais vous citer ce passage, mais j'aimerais quand même qu'on puisse le lire ensemble. Pour ceux qui n'ont peut-être pas l'habitude de m'entendre, eh bien je tiens à vous dire que j'ai beaucoup à cœur de vous amener sur les versets ensemble. Donc je vous ferai naviguer souvent dans la parole de Dieu, mais je trouve que c'est bien qu'on puisse prendre le temps de regarder quelques versets particuliers. Je vous en citerai d'autres. Regardez cette parabole qui nous montre combien Dieu voit et manifeste, et en tout cas est près de ceux qui ont le cœur brisé, puisque cette parabole, on la cite souvent dans Luc chapitre 18 et au verset 9. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier, l'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou comme ce publicain. Je jeûne deux fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Verset 13, le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Amen. Verset 14, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Tout commence là, dans notre cœur. Comment peut-être réagissons-nous par rapport à l'état de notre cœur? Parce que l'histoire de ces murailles de Jérusalem qui sont en ruine et qui ont affligé le cœur de Néhémie, ça pourrait être l'image de plein de choses dans notre vie, de circonstances, peut-être de l'état de notre cœur, qui à un certain moment donné, peut-être dans notre vie avec Dieu, eh bien, était bien bâti, solide, et puis qui un jour, pour quelque raison que ce soit, s'est retrouvé en ruine. Ça peut être l'image de notre famille, ça peut être l'image de notre société, de notre nation. Ça peut être également l'image de notre Église. Comment réagissons-nous par rapport à l'État? N'y a-t-il pas, eh bien, parfois des pans entiers, des pans de murs entiers qui sont détruits et qui sont en ruine? Beaucoup peut-être versent des pleurs, peut-être des gémissements, mais sans avoir un cœur brisé. Si notre cœur n'est pas brisé dans cet esprit dont on vient de le partager, à la vue de toute cette désolation, eh bien, peut-être réclamons dans notre cœur de voir comme Dieu lui voit, de ressentir les choses comme lui les ressent. Vous savez, il y a un passage extrêmement important des Écritures, c'est dans « Ne le cherchez pas » dans Genèse au chapitre 6 et au verset 5, il est dit que Dieu a vu la méchanceté sur la terre. Et cela même lui a poussé à réagir, de se repentir même d'avoir fait l'homme. Et il est écrit ceci, « L'Éternel fut affligé dans son cœur. » Et lorsque l'on voit, je dirais, tout ce que nous voyons autour de nous, dans notre société, certaines décisions qui sont prises, mais peut-être sans aller trop loin, peut-être dans notre vie, dans notre propre cœur, dans notre relation avec Dieu, est-ce que certaines situations véritablement affligent notre cœur comme le cœur de l'Éternel serait affligé dans cette situation? Néhémie, quand il a appris la nouvelle, quand il a entendu ces choses, il s'est assis, il a pleuré et il a été plusieurs jours dans la désolation. Ce n'était pas un coup de tête. Néhémie n'a pas agi par un coup de tête. Vous savez, des fois, nous, on est peut-être des fois sur une parole, sur quelque chose qui nous a marqué, on agit un peu sur un coup de tête. Ou alors peut-être par tradition, par légalisme, il y a plein de choses qui sont là dans notre cœur. Ce qui est dans le cœur de Néhémie, c'est qu'il voit comme Dieu lui-même voit. C'est ce qui se passe dans le cœur d'Néhémie, c'est qu'il éprouve les sentiments tels que Dieu les éprouve. Et ça c'est important parce que quand on dit cette nécessité d'avoir un cœur brisé, on le voit dans cette prière de Néhémie. Néhémie, cet homme qui a un cœur brisé, qui est contrit, qui est affligé véritablement dans son cœur, eh bien, ce n'est pas qu'il s'agit pour nous de faire un effort particulier pour avoir un cœur brisé. Et ça, c'est quelque chose d'important. Nous n'avons pas besoin de faire un effort direct pour exciter les sentiments dans notre vie. Ça peut être le cas parfois si on voit quelqu'un qui pleure, si on voit certaines situations, on peut peut-être amener nous aussi à vouloir agir directement sur nos sentiments. On ne peut pas faire un acte volontaire pour susciter des sentiments dans notre vie. On pourrait se tromper en faisant cela. Je prends peut-être un exemple qui est un peu primitif, simple, mais qui peut-être peut nous aider. Vous avez peut-être un objet qui est pour vous un objet de grande valeur. Et ce n'est pas parce que vous regardez cet objet et vous dites « je veux ressentir des sentiments parce que si on me le vole ou si je le casse, je vais ressentir quelque chose ». Ce n'est pas en se forçant de ressentir des choses qu'on va le ressentir. Par contre, s'il se brise, que c'était un objet de valeur, si on vous le vole, naturellement, vous allez avoir des sentiments de désolation dans votre cœur. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut exciter par nous-mêmes. Ce sont des sentiments qui viennent dans nos vies. C'est sûr que l'on peut préparer ces sentiments. Je prends un autre exemple. Par exemple, c'est un homme qui est éloigné de sa famille. Il va être occupé toute la journée dans son travail. Et ce n'est pas un instant T qui pourra dire je veux ressentir des choses pour ma famille qui est éloignée. Par contre, il prendra un petit peu de temps. Le soir, quand il sera dans sa chambre, eh bien, il commencera à penser à ses proches qui sont éloignés. Et petit à petit, des sentiments de frustration, de séparation vont naître dans son cœur. On ne peut pas produire un sentiment par notre simple volonté, mais par contre, nous pouvons, les uns et les autres, indirectement, susciter des sentiments, peut-être en dirigeant notre pensée dans telle ou telle situation. Et c'est important pour notre propre vie de faire le point, de réfléchir en rapport avec la parole de Dieu, où nous en sommes exactement, peut-être dans l'église dans laquelle nous sommes, dans la famille, réfléchir dans notre nation, les décisions qui sont prises. Et petit à petit, lorsque nous concentrons un petit peu comme Néhémie, vous l'avez vu, il a demandé qu'est-ce qui se passait. Il a demandé, c'est un peu une sorte de bilan, il a reçu ce bilan, et peut-être nous aussi, nous avons besoin, eh bien peut-être de regarder, d'éprouver certaines choses afin que des sentiments profonds naissent dans notre cœur. Vous savez, lorsque Néhémie apprend ce rapport sur Jérusalem, il ne reste pas insensible, il n'essaie pas de ressentir quelque chose peut-être pour faire plaisir ou quoi que ce soit, il ressent tout simplement les choses. Pourquoi ? Parce que son cœur, il est proche de celui de son Dieu. Il souffre comme Dieu lui-même souffre. Il a les mêmes sentiments de frustration, de désolation, tels que Dieu les a. Et je pense que pour nous, les uns et les autres, pour avoir ce cœur brisé, il nous faut voir comme Dieu voit. Il faut exactement que les sentiments qui sont les sentiments de Dieu, eh bien, soient dans notre vie. Nous devons souffrir comme il souffre. Vous savez comment, à plusieurs circonstances, le Seigneur Jésus lui-même a pu pleurer sur Israël, sur cette nation, en voyant Jérusalem, toute cette désolation. Et nous avons besoin, nous aussi, peut-être, pour certaines circonstances de notre vie, je parle de notre propre cœur, de notre relation avec Dieu, ou d'autres situations autour de nous, nous avons besoin, nous aussi, non pas d'exciter des sentiments, mais de voir comme il voit, de sentir comme il lui sent, d'avoir cette perception, afin que comme Néhémie, eh bien, nous puissions aussi avoir ce cœur brisé et contrit. Heureux les affligés, heureux ceux qui sont dans la désolation. Pourquoi ? Parce que eh bien, l'Éternel va pouvoir les réconforter. Je voudrais qu'on puisse aller un peu plus loin. On revient sur Néhémie au chapitre 1er. On continue plus loin dans cette prière qu'il va adresser à l'Éternel. Néhémie, avec ce cœur brisé, va répandre son âme devant le Seigneur. Et avant de lire, peut-être quand même insister sur ce point. Vous savez, des fois, on se pose la question sur ce qu'est la prière exactement. Là, vous avez, j'allais dire, ce qu'est la véritable prière. Un cœur brisé, contrit. On a cet exemple aussi de Anne, la maman de Samuel. C'est un cœur qui va se livrer complètement au Seigneur. Un cœur qui va prier avec beaucoup, beaucoup de sincérité et d'honnêteté qui va se répandre devant l'Éternel. Au verset 4, « Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais, et je fus plusieurs jours dans la désolation, je jeûnais, je priais devant le Dieu des cieux, et je dis, ô Éternel Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment. Jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi. Car moi et la maison de mon père, nous avons péché. Nous t'avons offensé et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai, et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors échanson du roi. Amen. Et je vous invite, et surtout si vous ne connaissez pas l'histoire de Néhémie et toute la suite, de voir comment l'Éternel va véritablement restaurer le cœur, consoler le cœur de Néhémie et aussi de toute cette nation au travers des circonstances que Dieu va permettre. Malgré des combats et des luttes, il faut voir quand même dans quelles circonstances le peuple d'Israël a été amené à rebâtir les murailles de Jérusalem. Mais, comme je le disais tout à l'heure, à la base de toute cette histoire, il y a ce verset 4. Un cœur brisé. Oui, Dieu n'a de cesse de vouloir dans son cœur de nous consoler, de nous restaurer, de rebâtir peut-être ce qui a été détruit dans notre vie, mais cela passe par cette étape d'avoir un cœur brisé. On l'a vu au travers de Néhémie, d'autres versets de la parole de Dieu dans les psaumes, mais aussi cette parabole de ce publicain, comment Dieu est près de ceux qui ont le cœur brisé. Le deuxième point que je voudrais partager avec vous, que l'on voit assez nettement dans cette prière que Néhémie a adressée, c'est que Néhémie reconnaît que Dieu est juste. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut que l'on soit pétri dans notre vie, et surtout dans notre prière, dans notre relation avec le Seigneur. Dieu est juste. Et Néhémie réalise qu'en définitive, tout ce qu'ils ont vécu et la situation dans laquelle ils sont tout simplement des conséquences de la désobéissance. Vous avez vu au verset 7, « Nous t'avons offensé, nous n'avons point observé les commandements ». La véritable prière, elle a ce caractère particulier d'honnêteté, de vérité, d'intégrité devant Dieu. Elle ne cherche pas des détours, elle est complètement spontanée. Elle va droit au but, elle appelle un chat, un chat. Et il y a une grande vérité qui se dégage de la parole de Dieu, peut-être quelque chose que nous négligeons un petit peu, et je me mets bien sûr en premier avec vous, peut-être que nous négligeons un petit peu dans notre marche avec le Seigneur et dans notre vie de croyant. Il y a un principe biblique qui est très important. C'est même d'ailleurs, c'est curieux, parce que c'est devenu un dicton que l'on utilise couramment dans la société sans savoir qu'il provient tout simplement de la Bible. Qui sème le vent, récolte la tempête. Alors on va le lire ensemble dans le livre du prophète Osée au chapitre 8. Gardez toujours peut-être un doigt si vous pouvez. S'il vous en reste, dans Néhémie, dans le livre du prophète Osée, au chapitre 8 et au verset 7. Je tiens à le lire avec vous parce que c'est un principe fondamental que je pense qu'il est bon toujours d'avoir à notre esprit. Osée, chapitre 8, verset 7. « Puisqu'ils ont semé du vent, ils moissonneront la tempête. Ils n'auront pas un épi de blé. Ce qui poussera ne donnera point de farine. Et s'il y en avait, des étrangers la dévoreraient. » Amen. Puisqu'ils ont semé du vent, ils moissonneront la tempête. Néhémie reconnaît que Dieu est un Dieu juste et que la situation que vit le peuple d'Israël, toutes ces murailles, cette déportation, la désolation, ne remet jamais en question la fidélité de Dieu, son amour, sa patience, Même quand on lit ces versets tels qu'on peut les lire là, qui sont pour nous empreints de sévérité, Dieu est juste. Et jamais Néhémie ne va remettre en question cette fidélité, l'amour de Dieu, sa patience. Mais Néhémie va remettre en question, par contre, la fidélité du peuple de Dieu. Et reconnaît que la situation dans laquelle ils se sont placés, eh bien, est tout simplement liée, eh bien, les conséquences, en fait, de leur désobéissance. Combien d'hommes, aujourd'hui, combien de femmes seraient prêts à descendre, j'allais dire, de leur piédestal religieux, cette position où ils se sont un petit peu installés, pour reconnaître devant Dieu les erreurs qu'ils ont pu commettre. Je ne dis pas que toutes les situations que nous vivons et les épreuves et les souffrances auxquelles on peut être amené à vivre dans notre vie soient liées aux conséquences de notre désobéissance ou au moins de notre non-application de la parole de Dieu telle que l'Éternel l'aurait voulu. Et il faut éviter l'amalgame. C'est vrai que quand nous prêchons un message, on ne peut pas tout prêcher dans son ensemble. Il y a beaucoup de souffrances. Prenons tout simplement l'exemple de Job. Job n'a pas été touché dans sa vie parce que conséquence de désobéissance. Mais il y a bien des situations dans nos vies, dans nos églises, peut-être dans notre mouvement. Il y a bien des situations, certainement, qui sont tout simplement des conséquences du non-respect dans notre propre démarche de la parole de Dieu. Quand on lit la Bible, quand on voit certains préceptes tout simples que l'Éternel nous a donnés, eh bien, nous reconnaissons que nous nous sommes mis dans certaines situations, dans certaines voies, tout simplement parce que nous n'avons pas respecté ces conseils-là. Quand on prend un verset comme « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus », si nous respections eh bien, la lettre, je veux dire, dans nos vies, ces conseils de la part de l'Éternel, je pense qu'il y a bien de situations qui nous épargneraient des choses difficiles dans notre vie. Dieu est juste. Souvent, on se pose des questions, mais pourquoi Dieu permet ceci? Pourquoi Dieu permet cela? Ce n'est pas l'attitude de Néhémie. Néhémie reconnaît véritablement que Dieu avait donné des préceptes au peuple d'Israël et que le peuple d'Israël n'avait pas obéi. Pourquoi Dieu parfois, et ça nous interroge vraiment, pourquoi Dieu permet parfois le désordre, même dans l'Église? Pourquoi, au temps de Néhémie, Dieu permettait même que les étrangers se moquent d'Israël et de l'Éternel à cause de leur situation? Soyons pétris de cette pensée. Dieu est juste, il est parfaitement juste. Dans tout ce qu'il fait, il est parfait. Il ne se trompe jamais. Ne sommes-nous pas tout simplement eh bien, dans ces conséquences de notre vie? Je voulais lire avec vous d'autres versets, je vais juste vous les citer pour montrer combien le psalmiste est pétri de cette pensée de justice. Il est dit ceci, « La justice et l'équité sont la base de ton trône. La bonté et la fidélité sont devant ta face. » L'Éternel, dans un autre psaume, pour ceux qui prennent des notes, je vous ai lu psaume 89, verset 15, et je vous cite le psaume 145, verset 17, ne le cherchez pas, « L'Éternel est juste dans toutes ses voies. » Il y aurait d'autres versets, vous prenez peut-être les correspondances. Vous savez, nous avons le choix d'interpréter les événements que nous vivons à notre guise, mais Néhémie nous donne ce témoignage fort et puissant eh bien, d'un homme qui réalise sa part de responsabilité. Et dans ses choix, eh bien, malgré les avertissements de l'Éternel, pour ceux qui prennent des notes, vous lirez dans Deutéronome au chapitre 29, tout ce que l'Éternel avait donné au peuple d'Israël pour que justement ils ne vivent pas la désolation dans laquelle ils se sont entrés, que nous lisons dans Esdras et dans Néhémie. Je pense qu'il est important pour nous de reconnaître, comme Néhémie, que Dieu est juste dans toutes ses voies, et que parfois nous avons besoin, au travers de la parole de Dieu, de mesurer eh bien, les conséquences de ce que nous n'avons pas respecté l'Éternel. Dans un certain interview, ça se passait aux États-Unis, un journaliste a posé une question à une fille d'un pasteur. Et a posé cette question, mais comment Dieu a-t-il pu laisser une telle horreur des attentats du 11 septembre? Et cette fille de pasteur a eu une réponse qui était assez, assez profonde et perspicace que j'ai notée. Elle dit ceci: « Je crois que Dieu a été profondément attristé par tout ce que nous avons pu voir, au moins autant que nous. Mais depuis des années, nous avons demandé à Dieu de sortir de nos écoles. Nous lui avons demandé de sortir de nos gouvernements et de sortir de nos vies. Et Dieu s'est retiré. Comment nous pouvons espérer que Dieu donnera sa bénédiction et sa protection si nous insistons pour qu'il nous laisse seuls ? On a dit on ne veut plus de prière dans les écoles. Et tout le monde a dit oui. Et on a supprimé la prière. Un autre a dit on ne devrait plus lire la Bible dans nos écoles, l'ouvrir. Cette même Bible qui dit « tu ne tueras point, tu ne voleras point ». Cette même Bible qui dit « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». On ne l'a plus voulu et on a dit « plus de Bible ». Ensuite, on a dit « on ne devrait pas taper nos enfants parce que leur personnalité pourrait être faussée ». Et ensuite, on se demande pourquoi nos enfants n'ont pas de conscience, pourquoi ils sont rebelles et ils ne savent pas faire la différence entre le bien et le mal. Probablement qu'à force de profondes réflexions, nous en viendrons à la conclusion que ça a à voir avec ce principe de récolter ce qu'on a semé. C'est drôle, elle termine en disant ceci, c'est drôle de voir à quel point il est simple pour les gens de jeter Dieu et se demander ensuite pourquoi leur monde devient un enfer, à quel point nous croyons tout ce que les journaux disent et remettons en question tout ce que la Bible dit. Et je me permets, c'est peut-être quelque chose de personnel, mais lorsque des nations comme la nôtre sont en train de prendre des décisions qui sont totalement en opposition avec les lois que l'Éternel nous a données pour que nous puissions vivre heureux, rappelez-vous ce que nous avons dit tout à l'heure, le sermon sur la montagne commence toujours par « heureux ». Dieu veut notre bonheur. Et toutes ces lois, ces commandements que l'Éternel nous a donnés, c'est pour que nous vivions ici-bas sur la terre une vie épanouie. Mais lorsqu'une nation prend des décisions contraires, lorsque dans notre propre vie, notre foyer, notre famille, dans nos décisions personnelles, nous prenons des choses contraires à ce que l'Éternel voulait pour nous, ne soyons pas étonnés. Mais si dans notre conscience, à un certain moment donné, nous réalisons que nous vivons les conséquences de notre désobéissance, ayons au moins ce réflexe comme l'a eu Néhémie dans sa prière, de réaliser que nos fautes, nos erreurs, notre désobéissance nous a menés à cette situation. Dieu est juste, hein? Dieu est juste. Je voudrais partager un troisième point avec vous sur cette prière de Néhémie, qui est assez remarquable aussi. Il y aurait beaucoup de choses à dire dans cette prière, mais quelques points, je vous ai parlé de ce cœur qui est brisé, je vous ai parlé de comment Dieu est juste et comment Néhémie reconnaît que Dieu est parfait dans toutes ses voies. Et le troisième point qui vraiment interpelle mon cœur, c'est comment Néhémie s'identifie totalement au peuple. Vous avez vu dans la prière l'emploi du « nous ». Au verset 6, par exemple, « Nous t'avons offensé, nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances ». On peut dire que Dieu est attentif chaque fois qu'il a trouvé un cœur qui vit une véritable repentance. On le voit au travers d'Esdras, ce serait long peut-être de relire certains textes. Souvent, on relativise notre implication dans la déchéance peut-être du peuple de Dieu. Ce n'est pas l'attitude de Néhémie. L'attitude de Néhémie dans sa prière, c'est de s'associer pleinement aux fautes de son peuple, comme on le voit dans d'autres circonstances, on le voit notamment dans Daniel, pour ceux qui voudront le lire chez eux, dans Daniel au chapitre 9. On a besoin de corriger peut-être notre façon de voir, de nous repentir. Vous savez, il y a beaucoup de petites guéguerres de religieuses, même parfois à l'intérieur d'une même église. Toutes ces divergences, je pense, secondaires, doivent être laissées de côté pour que les uns et les autres, nous puissions nous concentrer à l'essentiel. Tout ce qui fait honneur à la piété, tout ce qui va permettre que Dieu soit glorifié, l'amour de Dieu dans nos cœurs, la communion fraternelle, le salut des âmes, voilà, je pense, l'essentiel. Néhémie, il pleure. Néhémie, il se repent. Il n'est pas là pour jeter la pierre à Paul et Pourtant, il aurait peut-être une certaine légitimité. On voit d'autres hommes de Dieu qui, dans la parole de Dieu, ont subi les inconséquences d'autres. Non, il n'est pas là pour pointer du doigt. Non, il pleure, il se repent. Il se repent de ses propres péchés et aussi de ceux de son peuple. Il y a parfois une responsabilité collective. On le voit très nettement d'ailleurs dans le livre de l'Apocalypse lorsque le Seigneur s'adresse à une église. Et il y a des choses que nous vivons collectivement à cause de l'attitude, de la désobéissance de certains. Et il est temps peut-être parfois de revenir à Dieu de tout son cœur comme l'a fait Néhémie, et de s'identifier. J'aime ce « nous », il m'interpelle. On n'a pas le temps ce soir de le voir, mais pour ceux qui prennent des notes, vous verrez dans Esdras au chapitre 9, mais aussi dans Daniel au chapitre 9, comment ces hommes de Dieu, avec un cœur brisé, contrit, se sont également associés avec cet emploi du « nous ». Nous t'avons offensé, nous avons désobéi. Et je voudrais terminer très rapidement par une autre pensée qui domine cette prière de Néhémie. C'est que Néhémie va s'attacher aux promesses de Dieu. Vous savez, lorsque nous avons lu que Dieu est près de ceux qui ont un cœur brisé, heureux les affligés, cela ne signifie pas que la désolation crée un mur de lamentation dans notre vie où nous restons totalement dans la lamentation. Parce que dans une telle attitude, on finirait comme Judas. Judas, vous savez, à un moment donné, il s'est lamenté, il s'est désolé, et au final, il est resté sur cette tristesse, et bien il s'est suicidé. Mais la tristesse selon le cœur de Dieu, cette tristesse que Dieu va nous communiquer, c'est l'apôtre Paul qui le dit, elle produit une repentance à salut. Et elle a une action positive dans notre cœur et dans notre vie. Et j'aime cette attitude de Néhémie qui, malgré qu'il reconnaît les fautes, malgré ce cœur brisé, malgré qu'il reconnaît que Dieu, dans sa justesse, finalement, a donné au peuple que les conséquences de sa désobéissance, Néhémie va avoir un réflexe extraordinaire, il va s'attacher aux promesses de Dieu. Vous avez vu au verset 9, il rappelle à Dieu ce qu'il avait dit, les promesses qu'il avait données, mais si vous revenez à moi. Il y a une transition un petit peu au verset 9 avec ce mais si vous revenez à moi, si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là, je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Que nous puissions peut-être, dans ces temps où nous réalisons cette désolation, ces temps où nous réalisons ces ruines dans notre vie ou dans toute autre circonstance, lorsque nous reconnaissons notre misère et notre péché, de prendre peut-être ce réflexe dans notre vie, de prendre Dieu au mot, de crier à lui en lui rappelant toutes ses promesses qu'il nous a laissé dans la parole. Je vais vous citer juste un verset, par exemple, où l'apôtre Jean dit ceci, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Dans 1 Jean, au chapitre 1er, au verset 9. Voilà peut-être un verset, une promesse que le Seigneur nous a laissée et que nous pouvons saisir à pleine main, même si notre cœur est vraiment dans la désolation, contrit, humilié. Je pense que cette attitude doit avoir une dimension positive de réaction dans notre cœur. Nous ne voulons pas finir dans cette désolation. Je disais tout à l'heure, ça ne construit pas pour nous un mur de lamentation et on resterait figé là-dedans. Non, pas du tout, mais d'avoir le réflexe de nous saisir des promesses que le Seigneur nous a faites. En tout cas, c'est ce que fait Néhémie et j'aime cette attitude de Néhémie. Lui, en tout cas, il a pris cette décision, il veut s'attacher fermement aux promesses de Dieu. Ce qu'il a dit, il le fera. Et il ne met en doute à aucun moment donné, je vous l'ai dit tout à l'heure, de la fidélité de Dieu. La Bible contient des promesses que nous pouvons saisir avec foi lorsque, comme Néhémie, nous nous humilions devant sa face. Il y aurait beaucoup de choses encore à partager, mais je veux terminer là ce soir. Dieu est bon. Dieu est juste, Dieu est parfait dans toutes ses voies, et nous le bénissons pour sa parole, pour ses exemples qu'il nous a laissés. Il y a peut-être des situations de notre vie où nous pouvons reconnaître tout simplement que nous sommes dans des conséquences de certains choix que nous avons pu faire, ou des moments ou des situations où nous n'avons pas pris au sérieux la parole de Dieu, cela peut arriver. Ce qui est important, comme ce publicain, c'est de venir devant le Seigneur. On ne fait pas les fanfarons, mais un cœur brisé, il se frapper la poitrine, et de reconnaître nos péchés, nos iniquités, de nous humilier devant l'Éternel. Et comme nous l'avons lu en introduction, heureux, heureux ceux qui sont affligés, parce qu'ils seront consolés. Que Dieu puisse permettre que nous puissions les uns et les autres vivre cela d'une manière très forte dans notre cœur. Nous allons le prier un instant. Éternel, notre Dieu, nous te bénissons les uns et les autres pour ta parole. Tu nous as sauvés, tu nous as rachetés de notre vaine manière de vivre, tu nous as purifiés de nos péchés. Et non seulement, Seigneur, tu nous permets aujourd'hui d'entrevoir une vie dans l'éternité auprès de toi, mais tu nous donnes déjà ici-bas sur la terre tout ce dont nous avons besoin pour vivre heureux. Seigneur, tu es infiniment bon pour nous. Dans tes conseils, dans tes commandements, dans toutes tes promesses que tu nous as laissé tout ce dont nous avions besoin les uns et les autres, Seigneur, pour vivre une vie épanouie avec toi. Aussi ce soir, nous voulons te demander pardon, peut-être pour toutes ces situations où nous réalisons que, eh bien, c'est que ruine, Seigneur. Là, tu aurais voulu que des murailles restent bâties, construites à l'honneur et à la gloire de ton nom. Nous pouvons peut-être réaliser que, eh bien, ce sont des ruines ce soir. Peut-être quelqu'un au milieu de nous réalise qu'il t'a offensé, qu'il est parti loin de toi, qu'il t'a rejeté complètement. Seigneur, nous te prions ensemble que notre cœur, eh bien, voit comme toi tu vois la désolation dans nos vies. Nous voulons un cœur brisé, Seigneur, de ressentir véritablement cette désolation dans notre cœur pour crier vers toi. Comme l'a fait Néhémie, Seigneur, nous voulons nous aussi nous rappeler tes promesses. Seigneur, ce que tu nous laisses dans ta parole, nous voulons saisir à pleine main cela et te prions pour chacune de nos vies. Seigneur, afin que tout ce qui a comme désolation aujourd'hui soit rebâti, reconstruit pour la gloire et l'honneur de ton nom. Merci pour l'exemple de Néhémie. Aide-nous les uns les autres à continuer à méditer cet exemple, Seigneur, de véritablement le vivre dans notre vie et de mettre en application surtout et d'obéir à ta parole, Seigneur, afin que tu puisses, tel que tu le veux, Seigneur, consoler nos cœurs, rebâtir, Seigneur, afin que le monde qui nous entoure voit que non seulement tu existes et que tu vis et que tu veux régner dans chacun de nos cœurs, mais que tu veux rétablir tout ce qui a été mis, Seigneur, à l'envers, contre toi. Seigneur, pour la gloire et l'honneur de ton nom, nous prions de tout notre cœur de faire cela dans nos vies, dans nos familles, Seigneur, dans notre Église. Nous le croyons de tout notre cœur que tu peux le faire. Amen.